Europe 1, il est midi. Bonjour à tous.
Europe Midi. Romain Desarbres.
Bienvenue dans Europe Midi, votre grand rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1. Et vous avez la parole, vous le savez, comme tous les jours. Mais tout d'abord, le journal d'Europe Midi, avec à la une aujourd'hui l'épreuve de philosophie du bac. C'était ce matin, avec au menu l'art, l'État ou encore la justice. On rejoindra Louise Salé à la sortie d'un centre d'examen. Alerte à la canicule, notamment à Toulouse. Plus de 35 degrés cet après-midi. On étouffe à Toulouse, nous dira Benjamin Péter. Une camionnette de migrants fonce sur un barrage de police dans les Alpes-Maritimes. Un des occupants est blessé. Le récit et les informations de Frédéric Michel sur place. La crise chez les Girondins de Bordeaux qui sont en train de couler. Stéphane Place sera en direct de Bordeaux avec nous et nous dira s'ils ont ou non une chance d'être sauvés, ces Girondins. Et puis Emmanuel Macron est en Roumanie, en route pour la Moldavie. Est-ce sa place en pleine campagne de l'entre-deux-tours ? On va en parler, ainsi que d'autres sujets, avec vous au 39-21. Vous appelez, vous passez à l'antenne. Et avec Jean-Christophe Gallien, politologue et conseiller en communication. Bonjour.
Bonjour Romain.
Jean-Christophe Gallien et Guillaume Bigot, politologue et éditorialiste, membre de la revue Front Populaire.
Bonjour Romain, bonjour à tous.
Bonjour Guillaume et à tout de suite. De quoi rappeler des bons ou des mauvais souvenirs à beaucoup d'entre vous. Les 500 000 lycéens qui passent le bac ont planché ce matin sur la mythique, on peut le dire, épreuve de philosophie. L'ordre de poser les stylos vient d'être donné il y a une minute, il est midi une, dans tous les établissements du pays. Devant celui où vous vous trouvez en ce moment, Louise Salé. Et cette année, Louise, les élèves de terminale avaient le choix entre trois sujets. Les pratiques artistiques transforment-elles le monde ? Revient-il à l'État de décider de ce qui est juste ? Ou encore un commentaire de texte d'un essai d'Antoine-Augustin Courneau.
Oui, hein, Romain, j'ai pu croiser quelques élèves qui sont sortis juste un peu avant la fin de l'épreuve. Anna a donc choisi la dissertation sur le sujet « Revient-il à l'État de décider de ce qui est juste ?»
J'ai fait une première partie qui dit que non, et une deuxième partie qui dit que oui. Et ensuite, j'ai fait une conclusion qui rassemble un peu les deux, et j'ai donné un peu mon avis personnel. J'ai dit que plus on a de l'expérience, et plus on découvre ce qui nous paraît juste ou bien injuste. Et je pense que c'est en fonction des différentes expériences de chacun, et différents environnements aussi qui nous entourent, qui vont faire en sorte que les choses qui nous paraissent justes vont plus se montrer.
Anis, hein, lui, a préféré l'explication de texte. Il a commenté l'essai sur les fondements de nos connaissances et sur les caractères de la critique philosophique. C'est une œuvre d'Antoine-Augustin Courneau qui date de 1851.
En vrai, le texte, il était assez simple. Il disait, enfin, il y avait des termes plutôt faciles. Du coup, il était assez compréhensible. Du coup, en plus, il traitait du sujet de la vérité. La vérité, je trouve que c'est l'un des sujets les plus faciles en philosophie.
Et maintenant, l'épreuve est derrière eux et c'est soulageant, hein, on connaît cet effet plutôt agréable. Mais attention, il reste encore le grand oral, les sessions commenceront dès lundi.
Merci beaucoup Louise Salé avec nous en direct devant un lycée du 14e arrondissement de la capitale. Jusqu'à 37 degrés à l'ombre, c'est ce que vont connaître les habitants du sud-ouest cet après-midi. Une vague de chaleur dans tout le pays qui a commencé en début de semaine et qui ne prendra pas fin avant samedi. À Toulouse, il fait déjà quasiment 30 degrés. Actuellement, rester en extérieur devient de plus en plus compliqué. Benjamin Péter avec nous. Bonjour Benjamin.
Bonjour Romain, bonjour à tous.
Vous êtes sur place, Benjamin, évidemment, et vous pouvez en témoigner, hein, de cette chaleur.
Oui, ça y est, on a passé la barre des 30 degrés et ce n'est que le début puisqu'on s'attend à 35, voire 36 degrés cet après-midi ici. Alors on voit les gens ont sorti les casquettes, les chapeaux de paille, les vêtements clairs et beaucoup sont sortis dès ce matin pour faire leur marché tant qu'il y a encore une petite brise qui rend tout ça encore supportable. C'est ce qu'a choisi de faire Lydie.
C'est vrai qu'il fait très 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 chaud. On a envie d'aller dans l'eau, de se rafraîchir. Je m'hydrate et je reste au frais. Hein. Hier après-midi, bon, je voulais faire des courses et puis j'ai dit bon, je les ferai ce matin, donc je les fais ce matin. À la fraîche, voilà. Même les nuits, il faut se calfeutrer, hein. Dès que les températures sont plus fraîches, aérées, et voilà, laisser rentrer la fraîcheur.
Alors ceux qui n'ont pas trop le choix, ce sont ceux qui travaillent dehors, comme Fabrice, il est poseur d'enseigne et il travaille aujourd'hui sur la façade d'une boulangerie.
Ah là, on est en plein soleil et le meilleur est à venir même tout à l'heure. Ouais. Ben, on essaie d'organiser un peu quand même la journée, si les travaux les plus pénibles, de décaler au matin. C'est la seule chose, on compose avec ça. Après, on s'entretient, on boit de l'eau, on reste fin.
Vous l'avez pas loin, c'est
bon. Là, dans le camion, elle est bichonnée.
Voilà, alors la bouteille d'eau bien fraîche, hein, ça reste effectivement l'accessoire le plus à la mode aujourd'hui et au moins jusqu'à vendredi, puisque là, on attend plus de 40 degrés ici en pleine journée et des nuits très difficiles aussi qui ne descendront pas en dessous des 20 degrés.
Voilà, Benjamin Peter à Toulouse. Et au-delà des petits désagréments, les fortes chaleurs peuvent avoir des conséquences beaucoup plus dangereuses. Avec le Gard, c'était lundi, un gros incendie. Maintenant, c'est le département de la Lozère qui a été touché. 70 hectares de forêt partis en fumée au cœur des gorges du Tarn. Et le feu n'est pas encore totalement maîtrisé. Le manque d'eau, la sécheresse, rend vulnérables tous les massifs forestiers, même ceux que l'on peut considérer comme moins à risque. Exemple, vous allez voir dans la forêt de Fontainebleau, en très grande banlieue parisienne, où les sapeurs-pompiers enchaînent les missions de surveillance. Reportage Europe 1, signé Johan Tritz.
Il est tout gris, tout noir, il n'y a pas de verre du tout.
C'est une petite allumette sur pied, quoi.
Quand il voit du bois mort, c'est un synonyme de danger pour le lieutenant-colonel Olivier Conta.
Et il y a des secteurs où bah, c'est pas qu'un, c'est plusieurs qui sont de proche en proche comme ça. Et ça fait beaucoup de combustible au sol.
Le pompier de 51 ans inspecte quotidiennement la forêt de Fontainebleau au sol asséché par des jours sans pluie.
En plus, là, on est vraiment sur une interface. Vous voyez, il y a du feuillu et du conifère qui sont mélangés. C'est assez typique de la forêt de Fontainebleau. C'est du végétal hein, qui est bien sec.
Et puis, au bout d'un peu de marche, il arrive sur le lieu d'un incendie récent.
Là, il a brûlé un peu plus d'un hectare.
Des incidents comme celui-ci se multiplient à Fontainebleau.
On n'est pas sur le niveau des feux de forêt de l'arc méditerranéen parce qu'on n'a pas notamment les conditions de vent aussi importantes que dans le sud. Mais on commence à avoir des feux qui sont de plus en plus développés qu'on ne voyait pas en région parisienne auparavant.
Et cet épisode caniculaire inquiète le responsable du centre incendie.
Ce qui interroge tout le monde, c'est qu'on est tôt dans la saison, en fait. Quand on va commencer à aller au-delà de 2 jours, en fait, la végétation va vraiment le subir et tous les petits végétaux au sol vont être de plus en plus secs et donc du coup de plus en plus facilement inflammables.
Chaque année, plus de 60 départs de feux sont à déplorer dans la région.
Voilà, reportage de Johan Tritz, hein, la forêt de Fontainebleau, surveillée comme une forêt du sud de la France. Le déplacement d'Emmanuel Macron en Europe de l'Est se poursuit. Le président de la République a dormi cette nuit sur une base de l'OTAN en Roumanie, où sont déployées des forces françaises. Et ce matin, il a reçu la visite de son homologue roumain. Ils ont répondu tous les deux à la presse sur le tarmac de la base. William Molinier, envoyé spécial d'Europe 1. Emmanuel Macron, William, a été interrogé sur une éventuelle visite en Ukraine dans les prochaines heures. Il n'a pas répondu clairement, hein.
Oui, Emmanuel Macron a à nouveau entretenu le mystère autour d'un éventuel déplacement à Kiev. Demain, il ne l'a pas confirmé, il ne l'a pas démenti non plus, tout en se disant persuadé qu'un dialogue nouveau pouvait s'ouvrir avec les Ukrainiens.
Je pense que nous sommes à un moment où nous avons besoin d'envoyer des signaux politiques, nous, Européens, nous, Union Européenne, clairs, à l'égard de l'Ukraine et du peuple ukrainien dans un contexte où il résiste de manière héroïque depuis plusieurs mois. Le faire en prenant en compte la nécessaire unité des Européens, c'est tout le travail qui est le nôtre depuis plusieurs semaines, et de le faire avant un Conseil européen qui aura à prendre des décisions importantes à cet égard.
Il faut dire que les planètes s'alignent pour cette éventuelle visite à Volodymyr Zelensky. Comment Emmanuel Macron pourrait s'économiser d'un déplacement à Kiev alors qu'il se trouvera à quelques kilomètres seulement de la frontière cet après-midi, d'autant que la présidence française de l'Union européenne s'achève fin juin et que l'Allemand Olaf Scholz et l'Italien Mario Draghi, eux, doivent s'y rendre à en croire plusieurs médias européens.
William Molinier, voilà, qui suit le président de la République. Voilà, le sommet européen qu'Emmanuel Macron décrit comme une date butoir débutera le 23 juin, donc jeudi de la semaine prochaine. Le président qui s'est ensuite envolé donc pour la Moldavie, dans ce pays frontalier de l'Ukraine. Les enjeux stratégiques sont nombreux. Les Moldaves craignent une invasion russe, et particulièrement dans la région de Transnistrie, gouvernée par des séparatistes proches de Moscou. Cette autre information, écoutez bien, l'état-major français annonce la capture d'un important chef de Daesh au Grand Sahara. Il s'appelle Oumeya Ould Al-Bakaï. Il a été arrêté au Mali la semaine dernière par les soldats français. Ce djihadiste maniait efficacement les explosifs et il avait organisé plusieurs attaques contre la force Barkhane, notamment celle de Gao, en janvier dernier. Il est midi 9. Restez bien avec nous sur Europe 1 dans Europe Midi. Dans un instant, on va vous raconter ce qui s'est passé cette nuit dans les Alpes-Maritimes. Une camionnette avec des migrants, une camionnette qui transportait des migrants à forcer un barrage de police. À tout de suite.
Europe Midi. Romain Desarbres.
Europe Midi, les midi 11. Une camionnette a donc forcé un barrage de police dans les Alpes-Maritimes. Ça s'est passé cette nuit. Les forces de l'ordre ont dû ouvrir le feu pour arrêter le véhicule. Frédéric Michel, en direct avec nous. Bonjour Frédéric.
Bonjour.
Vous êtes le correspondant d'Europe 1 dans la région. Ce que l'on sait pour l'instant, Frédéric, c'est que le fourgon était occupé par des migrants. Hein.
Effectivement, et le bilan de cette course-poursuite est d'un blessé grave. Un migrant touché à la tête par les tirs des forces de l'ordre. Il est entre la vie et la mort. Un second migrant a été pris en charge par les pompiers ainsi qu'un policier fortement choqué. Les faits débutent vers 2h du matin à Sospel. On est tout près de l'Italie. Un fourgon avec plusieurs personnes à son bord force un barrage de la police aux frontières. Une course-poursuite s'engage en direction de Nice. Sur près de 40 km, le conducteur de la camionnette refuse d'obtempérer et de s'arrêter. La course folle s'achève dans un quartier sensible de l'ouest niçois. Plusieurs coups de feu sont tirés par la police. Le fourgon est stoppé. Le conducteur, sans doute un passeur accompagné d'un ou deux complices, s'échappe. Dans le véhicule, les policiers découvrent 5 migrants. L'un d'entre eux, je vous le disais, a été atteint par balle à la tête. Le procureur de la République de Nice a saisi l'inspection générale de la police nationale. Une procédure classique quand les policiers font usage de leur arme à feu. Les passeurs présumés sont eux activement recherchés. Ici, à la frontière italienne, le transport de migrants est devenu un business pour des délinquants qui profitent de la misère humaine et se font payer parfois des milliers d'euros pour un passage.
Frédéric Michel en direct de Nice, merci beaucoup. Frédéric, course poursuite sur 40 km, vous avez entendu. À l'heure où l'insécurité alimentaire menace les pays les plus pauvres et où le conflit ukrainien menace l'approvisionnement mondial en céréales notamment, l'ONU publie un rapport très intéressant sur lequel je voulais qu'on revienne dans Europe Midi. 14% de la production mondiale alimentaire serait gâchée chaque année entre la récolte et la distribution. Maud Descamps avec nous. Bonjour Maud.
Bonjour Romain, bonjour à tous.
Service économie d'Europe 1. Cela signifie que de la nourriture est gâchée, en clair, à chaque étape de la fabrication?
Tout à fait. En fait, on pense souvent à tort que c'est chez les distributeurs qu'on observe le plus de gâchis. En fait, ça ne représente que 16% des pertes. C'est en fait en amont qu'on voit le plus de gaspillage chez les producteurs, 54% du gâchis. Mais attention, il ne s'agit pas d'un choix délibéré. C'est ce que souligne Vincent Justin, cofondateur du réseau de magasins Nous Anti-Gaspi.
Les produits sont écartés pour deux raisons principales. Il y a des cahiers des charges. Il ne faut pas qu'un concombre soit trop tordu, qu'une cerise soit trop petite. Et puis après, il y a une deuxième grande raison, c'est que les distributeurs imposent aux producteurs de garantir leur volume. Et donc du coup, pour se prémunir d'une rupture qui coûterait très cher, tout le monde surproduit 5 à 10% en plus que ce que le marché a besoin. Ces produits, ben, ils finissent par arriver à date et une fois qu'ils arrivent à date, eh ben, ils sont jetés.
Alors le défi est donc de valoriser ces produits pour éviter de les jeter, améliorer le stockage, le transport, mais aussi mettre en place des filières chez les producteurs pour récupérer ces produits et trouver des débouchés comme cela est déjà fait dans certaines enseignes spécialisées dans la lutte contre le gaspillage alimentaire.
Merci beaucoup Maud. Ça veut dire qu'il faut aussi manger les légumes moches.
Les légumes moches, tout à fait, qui sont tout aussi bons.
Qui sont tout aussi bons. Merci beaucoup Maud. C'est un monument du foot français qui est en train de sombrer. Les Girondins de Bordeaux, déjà relégués sportivement en Ligue 2, ont appris hier qu'ils pourraient finalement évoluer en National 1 la saison prochaine. C'est l'équivalent de la 3e division. Décision prise par la DNCG, la Direction Nationale du Contrôle de Gestion, en raison de la situation financière du club qui a fait appel, soit dit en passant. Mais la situation est telle que les Girondins risquent désormais le dépôt de bilan. Stéphane Place, vous êtes le correspondant d'Europe 1 à Bordeaux, en direct avec nous. Bonjour Stéphane.
Bonjour Romain, bonjour à tous.
Les habitants attachés à leur club, les Bordelais attachés à leur club, n'en reviennent pas. Hein.
Oui, comme vous, et ce matin, ici au marché des Capucins, derrière son étal de fruits et légumes, Gabriel ne cache pas son amertume.
Je suis fatigué de regarder une équipe qui ne veut pas gagner. C'est sûr que c'est un monument, on était accro avec eux, mais il y a longtemps qu'on a baissé les bras. C'est sûr que ça fait mal aux tripes, parce qu'on avait quand même une bonne équipe, on était contents. Moi, je me suis vu aller au stade à pied pour les voir, tout ça, avec le casse-croûte, tout ça, auparavant, c'était ça, on rigolait, on était contents, mais là, on n'a plus d'envie, dégoûté.
Et voilà, la déception de Gabriel. Romain, vous l'avez entendu. Cette fois, les Girondins au bord du néant, c'est ce que titrent nos confrères de Sud-Ouest. Mais Patrice, supporter, veut croire à une solution financière pour limiter la casse, c'est-à-dire la relégation en Ligue 2, mais pas en National.
Vous représentez un dossier à la DNCG, on va être en D2, un point c'est tout. Il faut arrêter de cracher. Quand tu gagnes, tout le monde est là. Quand tu perds, ben voilà, pas supporter pour deux ronds.
Donc là, vous avez l'espoir qu'il va y avoir de l'argent.
Ben oui, ils vont trouver une solution, ben bien sûr. 25 millions, c'est 20 ou 25 millions, mais ils vont se démerder à trouver ça.
Bon, mais voilà, 26 ans, fan du club depuis toujours, Benjamin garde lui aussi espoir.
C'est une claque, mais on s'était préparé aussi à la nationale.
Vous avez espoir? Vous pensez qu'on peut encore au moins être relégué uniquement en Ligue 2?
Oui, avec les liquidités normalement des transferts, heureusement qu'on a certains joueurs qui sont formés au club, comme Koundé ou Tchouaméni. Donc on va prendre un petit billet sur leur transfert. Si on passe en nationale, ça va plus être le grand FCGB. J'ai peur aussi de pas mal d'emplois qui vont sauter, quoi.
Alors, une quarantaine de millions d'euros, me disait le service des sports d'Europe 1, à trouver rapidement pour éviter au sextuple champion de France la relégation en nationale et donc être repêché en Ligue 2. On saura normalement début juillet.
Merci beaucoup Stéphane. Stéphane, vous avez choisi la place de la victoire à Bordeaux pour faire votre direct.
Absolument, je crois que vous connaissez.
on me l'a soufflé dans le casque.
Non, ici, on se souvient de vous, il y a quelques fêtes qui ont marqué, vous savez, les esprits. C'est ici qu'on fête notamment les champions, quand ils sont champions, les titres des Girondins de Bordeaux, etc. Donc Romain, je sais que vous connaissez la place de la victoire.
Évidemment, merci beaucoup Stéphane. Midi 17, restez bien avec nous. Évidemment, le débat dans un instant, mais tout de suite, la météo avec vous Anissa Haddadi, avec la chaleur qui arrive maintenant sur la moitié nord, hein.
Oui, ça y est, maintenant, depuis aujourd'hui, Romain, nous avons plus de 30 degrés quasiment partout, sauf sur l'extrême nord. Hein. Là, ça reste encore agréable à l'abri des fortes chaleurs, avec 20 degrés à Dunkerque, 21 à Cherbourg, 25 à Caen, 26 à Lille. Ailleurs, l'ambiance est lourde, 29 à La Rochelle, 31 degrés pour Paris, Marseille et Nancy, 32 à Strasbourg, 33 à Clermont-Ferrand et Poitiers, 34 pour Saint-Étienne, 35 à Toulouse et Lyon et 36 degrés pour Carcassonne. Attention, cet après-midi, si vous nous écoutez dans le centre-est, entre le Massif central et les Alpes, vous allez avoir un passage orageux avec des orages localement forts. Donc soyez prudents entre donc le Massif central et les Alpes. Partout ailleurs, le temps est calme avec un soleil qui domine pour tout le monde.
Merci beaucoup Anissa. Midi 18, restez bien avec nous. Dans un instant, on va parler de cette campagne de l'entre-deux-tours des législatives. On est à 4 jours du second tour. Emmanuel Macron lance un appel au sursaut républicain pour ce second tour. Est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il a tort? On en parle avec vous et avec Jean-Christophe Gallien, politologue et conseiller en communication, et Guillaume Bigot, politologue et éditorialiste. À tout de suite.
Europe Midi, Romain Desarbres.
Emmanuel Macron qui lance donc un appel à un sursaut républicain pour le second tour des législatives. C'est très commenté. Est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il a tort? On en parle avec vous. On en parle également avec Guillaume Bigot, politologue et éditorialiste, et avec Jean-Christophe Gallien, politologue et conseil en communication. En clair, c'est un message adressé à la NUP. Hein. C'est un message adressé aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon. La NUP, la NUPES. Bon, Guillaume Bigot, c'est pas un mouvement républicain?
C'est beau, cet appel au sursaut républicain, après avoir tout fait pour stimuler l'abstention, ne pas avoir fait campagne. Parce que là, il faut peut-être lancer une alerte. Vous savez, il y a des alertes enlèvement. Donc peut-être que quelqu'un a vu le programme de La République en marche ou de La Renaissance, je ne sais pas. Quelqu'un l'a peut-être retrouvé, il faut qu'il nous dise en tout cas. Donc grosso modo, arrêtons de blaguer. Donc il n'y a pas eu de campagne, ça a été traité comme une espèce de formalité administrative. Et puis il y a un côté un peu fuite à Varennes. Il y a ce qu'il dit, mais il y a où il le dit. C'est-à-dire qu'il le dit depuis l'étranger, alors qu'il a quitté finalement
Il était encore à Orly. Hein.
Il était
sur le tarmac.
Vous avez raison. Vous avez raison.
Moteur allumé.
Voilà. Ajoutons un argument pour lutter contre le CO2, pour lutter contre l'écologie. Mobilisons-nous, etc. Bon, qu'est-ce que ça veut dire cette histoire de sursaut républicain? Ouais. Vous dites c'est la NUPES. C'est pas sûr parce que en même temps, je vous signale, il y a eu la porte-parole, Mme Grégoire, qui a dit pas une seule voix. Doit aller au Rassemblement National. Donc apparemment, bon, il y a effectivement
tout ce qui n'est pas LREM,
bien,
alors.
On comprend bien que ces gens ont une usine pour fabriquer, non pas, ils ont une usine à fabriquer des badges de républicanisme. Donc eux distribuent les badges, si vous voulez. Ils peuvent dire toi oui, toi non, un peu comme dans les boîtes de nuit. Vous voyez, vous rentrez pas. Donc eux, ils savent qui est républicain, qui ne l'est pas. Mmh. Mais apparemment, dans la gradation, RN, c'est totalement hors de la République. Et NUPES, c'est un petit peu plus, mais pas bien non plus. Donc moi, je pense que à part après cette séquence où pas une seule voix doit aller au RN, cette histoire de sursaut républicain, est-ce qu'il est dirigé uniquement contre la NUPES? C'est pas sûr.
Jean-Christophe Gallien.
Moi, je suis assez raccord sur l'idée que le président de la République, Emmanuel Macron, il a été un acteur de l'abstention. Ce qu'il critique d'ailleurs, parce que dans son allocution, il vient critiquer quasiment les gens qui ne sont pas allés voter. Alors maintenant, il faut y aller. C'est sérieux, allons-y, il faut que vous reveniez.
Oui, mais c'est l'année de Molière.
Exactement, non, il faut y aller. Mais lui, il s'est abstenu. Il s'est abstenu pendant cette campagne. On pourrait presque dire qu'il s'est abstenu à Mondé pendant la présidentielle, mais là, il s'est abstenu pendant la législative. Il a disparu, il s'est effacé. Et donc, il s'est effacé en France, puis il s'est effacé, finalement, là, il va en Roumanie, ben heureusement, parce que les Roumains, je peux vous le
donc
dire.
Donc, il devrait, Jean-Christophe Gallien, s'impliquer un petit peu plus dans cette campagne.
Il a causé fuite à Varennes.
Non seulement il devrait, mais il a senti que c'était une figure obligée. Il a dû se rendre compte que ni Madame Borne, ni d'autres ténors de Renaissance, de la République En Marche, ne pouvaient faire le job. Et donc là, il le fait. Alors, c'est pas tout à fait anecdotique, le tarmac. Et effectivement, c'est assez rare dans la vie politique française. Il émet depuis un lieu qui fait le lien entre ce rôle qu'il a de président de la République, donc effectivement de chef d'État des Français, mais aussi aujourd'hui, dans un contexte européen, ou pour quelques jours encore, il est le chef finalement d'une diplomatie européenne qui tente de s'exercer. Et donc, il résume dans un moi ou le chaos, parce que c'est ça en fait la formule. C'est moi et les miens, sinon c'est le chaos. Le chaos en France, le chaos de la République française, parce qu'il y a les NUPES, terribles, les pires encore, les RN. Et si c'est pas nous qui avons le pouvoir et la majorité absolue, j'aime bien ce mot, absolue à l'Assemblée nationale, ça ne marchera pas. Et donc c'est presque une alerte. C'est au-delà d'idée que les autres ne sont pas républicains. C'est moi ou le chaos. Et le chaos dans un contexte où d'ailleurs moi je vais peut-être aller demain, mercredi, avec mes deux collègues européens, faire face à celui qui en face veut envoyer le chaos sur le terrain européen, c'est-à-dire Vladimir Poutine. Donc il mélange les deux, et je pense que d'ailleurs la symbolique du tarmac, la symbolique de l'avion, c'est un peu ça, c'est-à-dire je suis entre les deux, parce que je peux
pas faire autrement. Je vais me faire l'avocat d'Emmanuel Macron, il a le droit de le dire, après, à l'opposition de se défendre.
Alors là, vous avez tout à fait raison, c'est une campagne électorale, il ne faut pas l'oublier. On n'est pas en train de parler d'un gouvernement.
Oui, mais il n'est pas le chef de la majorité.
Oui, non, mais c'est une campagne électorale. Il est de fait. Il est la seule incarnation potentielle politique et électorale de cette majorité existante. Peut-être on le verra demain ou dimanche prochain.
Ah, vous voulez dire parce qu'il a nommé quelqu'un qui est une nobody, c'est ça?
Ah, bah écoutez, on l'a.
Et donc il est obligé de faire le job lui-même.
On l'a presque vu.
C'est M. Churchill qui disait Clément Attlee, un taxi contenant Clément Attlee, son rival, s'est arrêté devant le 10 Downing Street et personne n'en est sorti. C'est ça, en fait. Il a quelqu'un qui est à la manœuvre, qui est normalement la personne qui doit défendre les couleurs de la majorité présidentielle, c'est-à-dire Madame Borne, et il estime qu'il doit faire le job à sa place.
Non seulement il l'estime, il le savait en la nommant. C'est-à-dire que pour le coup, il pensait même peut-être que ça allait passer sans devoir intervenir. Et puis, il a laissé des verticalisations opérées par M. Mélenchon, qui s'est servi d'événements extérieurs, d'ailleurs, à la campagne, pour pouvoir faire un score qui n'est pas un score en volume très intéressant, mais par contre en dynamique est intéressant. Et cette valorisation électorale qui le menace, c'était en gros qu'il n'ait plus la majorité absolue à l'Assemblée nationale, l'oblige à sortir de sa réserve, qui était une réserve finalement très abstentionniste.
On est avec Kamel. Bonjour Kamel.
Oui, bonjour.
Vous êtes retraité, vous nous appelez de Seine-Maritime. Vous dites Emmanuel Macron joue son rôle en appelant au sursaut républicain. Il est midi 27. Ce que je vous propose, Kamel, c'est ce qu'on fait relativement souvent d'Europe Midi. Vous restez avec nous. Il y a une petite pause pub, quelques instants. Ensuite, c'est le flash. Et on vous retrouve juste après avec également Jean-Christophe Gallien et Guillaume Bigot. A tout de suite.
Europe Midi. Romain Desarbres.
Bienvenue dans Europe Midi, merci d'être avec nous. Le débat continue dans un instant, mais tout de suite, c'est le rappel de l'actualité avec vous, Émilie Dez. Bonjour Émilie.
Bonjour Romain, bonjour à tous. Deux nouvelles discussions sont nécessaires avec l'Ukraine, assure Emmanuel Macron, le chef de l'État qui ne confirme pas toutefois une visite à Kiev. Après la Roumanie, il s'est envolé pour la Moldavie, là où sont accueillis près de 100 000 réfugiés ukrainiens. Sur le front, Moscou annonce l'ouverture d'un couloir humanitaire à Severodonetsk, dans l'Est. Kiev qui exhorte ses combattants à tenir le coup. La majorité présidentielle mobilisée à 4 jours du second tour des législatives, Elisabeth Borne est dans le Calvados où elle est candidate dans la 6e circonscription. Elle sera ce soir l'invitée du 20h de France 2. Hier, Emmanuel Macron a réclamé sur le tarmac d'Orly une majorité solide, un sketch à la Trump pour Jean-Luc Mélenchon, complètement inapproprié, déplore de son côté Marine Le Pen. Le stress retombe pour les 520 000 candidats au bac qui ont planché sur la philo ce matin. 4 heures d'épreuve avant le grand oral prévu entre le 20 juin et le 1er juillet. Les résultats seront publiés le 5. Un migrant a été blessé par balle la nuit dernière à Sospel dans les Alpes-Maritimes. Il était à bord d'un fourgon avec d'autres migrants. Fourgon qui a forcé un barrage de police. L'IGPN a été saisi du dossier. Et puis il pourrait s'agir d'un règlement de compte. À Lyon, deux jeunes hommes de 16 et 20 ans ont été tués la nuit dernière dans une fusillade dans le quartier de la Duchère. Deux autres mineurs ont été blessés.
Émilie Dez, merci Émilie. On vous retrouve dans une demi-heure. À tout à l'heure.
À tout à l'heure. Europe Midi.
Romain Desarbres.
Merci beaucoup, Kamel, d'avoir patienté. Vous nous appelez de Seine-Maritime. Vous vouliez réagir à cet appel au sursaut républicain. Vous dites qu'Emmanuel Macron joue son rôle en appelant au sursaut républicain. Pour vous, il appelle au sursaut républicain pour le second tour pour inviter les Français à aller voter. C'est comme ça que vous le comprenez?
Oui, c'est-à-dire d'abord les abstentionnistes et aussi oui. ceux qui ont voté pour les candidats qui ont été éliminés. Parce que ça frise 50% d'abstention. Donc, c'est ça ce que j'entends par sursaut républicain.
Par sursaut républicain. Vous ne vous pensez pas que c'est le chaos ou moi, le chaos ou LREM, et que ça ne vise pas ceux qui seraient tentés de voter pour la NUP ou pour le Rassemblement national?
Ben justement, sa fonction, enfin son mandat de président de la République lui interdit justement de préciser les choses. Donc je suis étonné d'ailleurs qu'il puisse faire un communiqué sur le site de l'Élysée. Donc il parle en tant que président de la République et je suis étonné qu'il ait fait des propositions sans composition. Et donc. Son rôle, c'est justement d'appeler l'ensemble des citoyens à voter le plus possible, parce que c'est un moment important, comme il l'a rappelé, la guerre en Ukraine, toutes les conséquences qu'il y a par rapport à cette
situation. Il faut aller voter. Appel voilà. à voter. Merci beaucoup, Kamel, de nous avoir appelé de Seine-Maritime. Guillaume Bigot, lève le doigt.
Oui, parce que je pense que monsieur Kamel avait tout à fait raison. C'est-à-dire que cette phrase, elle est polysémique, elle a plusieurs sens. Et bien sûr que, comme disait le cardinal de Ray, on ne sort de l'ambiguïté qu'à ses propres dépens. L'intérêt pour lui, c'est d'avoir une phrase qu'on peut interpréter au moins de trois façons. De la manière dont Kamel l'a interprétée, et ça peut s'entendre comme ça, il faut aller voter pour pas qu'il y ait trop d'abstentionnistes.
C'est vrai qu'on entendait moins cette explication.
Bien sûr, mais ça peut. Mais il a fait exprès. C'est-à-dire, cette phrase, elle est pesée au trébuchet. Ouais. Elle a été pensée avec des tas de cabinets de conseil, des communicants, etc. Bon, deuxième interprétation possible, ben, effectivement, si vous votez pour ceux qui sont pas gentils, pas bien, qui ont retiré le badge républicain, ça, vous allez faire du mal à la République. Donc le sursaut, c'est de pas voter pour eux. Et enfin, la conclusion logique, c'est voter pour moi, me donner une majorité, c'est le sursaut républicain. Il y a un côté mélenchonesque. La République, c'est moi.
C'est moi. Oui. Bon, Jean-Christophe Gallien.
Moi, j'effacerai vraiment la... Même si Kamel a en partie raison, je pense qu'on ne peut pas imaginer un seul instant. Je reviens encore une fois d'où il aimait, à partir de quel moment il s'en va. Là, c'est un moment tragique, grave. Il s'en va sur le bord de la mer Noire, les soldats français, la Moldavie. C'est un pays qui peut être effectivement menacé. N'oublions pas d'ailleurs qu'il y a un million de Moldaves qui ont un passeport européen, entre parenthèses, qu'on oublie toujours ici. Et c'est vrai qu'eux, ils attendaient Emmanuel Macron, ils l'attendent beaucoup. Mais je pense que non, je pense que c'est vraiment... Le message est très clair. On est dans une élection, encore une fois. On n'est pas en train de faire de la politique d'après. On est dans une politique.
Donc il dit votez pour
un
moi.
Un mode électoral, exactement. Il est dans son rôle assumé.
Il y avait aucune
de
urgence
chef de la majorité.
Pardon, il y avait aucune urgence à aller maintenant en Roumanie. Que le président arrive.
Bah non, attendez. Je peux vous le dire du point de vue roumain et moldave, ça fait un moment qu'il l'attend. Donc alors là, pour le coup, je peux vous le dire qu'il l'attend depuis un moment. Et la mer Noire est une mer européenne. C'est un enjeu majeur.
Il ne peut pas l'attendre une semaine de plus.
Non, pas vraiment, parce que pas vraiment. C'était une organisation.
Il y a un événement potentiel. Non, il y a
Non,
mais
ça fait un moment que ça fait. Alors, pour le coup, très concrètement, c'est
mardi ou mercredi
qu'il l'attend. Non, il l'attend. Il va peut-être aller mercredi demain à Kiev et c'est pas simplement lui qui crée l'agenda. Non. Il a deux collègues européens qui veulent y aller. Non, véritablement, alors c'est une manière. On peut pas lui reprocher, pour le coup. On peut pas lui reprocher d'avoir
d'aller
été absent suffisamment.
Juste Guillaume. Cette semaine, oui.
Non, mais Guillaume, d'avoir attendu aussi longtemps, il a été élu président il y a quelques semaines maintenant, d'avoir abandonné le terrain européen, comme d'autres chefs d'État et d'autres populations d'Europe l'accusent d'avoir fait. Notamment en Roumanie, en Moldavie, je vous le dis, j'ai travaillé auprès de ces gens-là.
Ils ont une calculatrice
qu'il affirme une position européenne. Ils ne pouvaient pas ne plus y aller, c'était trop. Et là, aujourd'hui, cette semaine, ça coïncide peut-être avec la deuxième semaine et le deuxième tour d'élection législative. Mais je crois qu'on ne peut pas lui faire le reproche d'y aller. Et peut-être maintenant, et surtout peut-être d'aller à Kiev demain, ce qui sera un événement ou pas un événement, selon de quel point de vue on considère.
Très mal exprimé, je ne reproche pas une seule seconde au président de la République d'être allé en Roumanie visiter nos troupes et d'être allé sur le terrain.
Pourquoi vous lui reprochez maintenant ?
Non, mais
maintenant.
Évidemment.
Il y a des agendas qui ne sont pas simplement ceux du contexte français.
Souffrez que je développe mon
argument.
La guerre a commencé il y a 8 ans. La guerre a recommencé d'une façon beaucoup plus grave il y a maintenant plus de 110 jours. Donc en 110 jours, et malheureusement la guerre sera sans doute là encore pour malheureusement des centaines de jours, oui. C'était pas nécessaire de le faire cette semaine alors qu'il y a juste une petite, pardon, une petite...
Il ne décide pas seul de cet agenda.
Jean-Luc Mélenchon
a dit, la présidence française, ça ne vous a pas échappé, elle se finit dans 10 jours.
Cette semaine, il y a une broutille politique cette semaine en France qui s'appelle les législatives.
Guillaume, Jean-Luc Mélenchon a dit que Emmanuel Macron méprisait les Français en quittant le territoire national, en allant en Roumanie puis en Moldavie.
Le terme est trop violent.
Emmanuel Macron lui a répondu il y a une heure à peu près.
Il faudra m'expliquer en quoi venir auprès de nos soldats est une forme de mépris. C'est un respect affiché. Et je pense que tous nos compatriotes le ressentent ainsi. Être président de la République, c'est être aussi chef des armées, c'est être à la tête de notre diplomatie, porter la voix de la France. Nous sommes à quelques jours de la fin d'une présidence française de l'Union européenne. Je sais que d'aucuns veulent en sortir, affaiblissant le pays et sa sécurité. Et je le combats avec force. Mais c'est pleinement mon rôle que de venir aux côtés de nos soldats, que de venir aux côtés de nos alliés et de préparer les décisions de ce qui sera le dernier conseil sous présidence française dans quelques jours. Donc j'assume, comme d'habitude, tout avec clarté et sérénité. Parce que je pense que notre pays a besoin de clarté et de sérénité aussi.
Voilà, j'assume tout, hein, dit Emmanuel Macron. On est en ligne avec Anthony, pharmacien en Bretagne. Bonjour Anthony, vous avez 40 ans, merci de nous appeler.
Eh bien, merci à vous de m'appeler.
Vous dites, je suis d'accord avec l'appel au sursaut républicain du président. Déjà, tiens, une question sur le fait qu'il soit hors du territoire national, qu'il ait quitté le territoire national dans cette campagne d'entre-deux-tours. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Ben, moi, j'en pense qu'il est président de l'Union européenne pour quelques temps encore. Donc, il a ce rôle-là à assumer, tout simplement. Ça ne va pas chercher plus loin. Bon. Certes, on est en campagne, mais il est président de l'Union européenne. Donc, il doit assumer son rôle jusqu'au dernier jour.
Il doit assumer son rôle jusqu'au dernier jour. Guillaume Bigot, vous l'aviez...
Je reviens. Il y a une broutille politique qui s'appelle une broutille politico-administrative. Un détail qui s'appelle les élections législatives. C'est tout. Donc,
très clair, Guillaume Bigot, oui, vous pensez qu'Emmanuel Macron aurait dû rester et...
Non. Je pense qu'il est parti volontairement cette semaine. C'est pas une fuite à Varennes, si vous voulez. Mais le calcul, c'était probablement que la situation était moins dégradée et qu'ensuite, il a pris des attaches. Effectivement, les choses se sont organisées. Parce que pour le coup, je reconnais bien volontiers que pour un chef d'État en exercice, se déplacer dans une zone qui est proche d'une zone de guerre, voire aller dans une capitale qui est une capitale d'un pays en guerre, ça s'organise pas si simplement que ça. Donc oui, il est probablement, il ne s'attendait pas à une situation
pour éviter la campagne
déconfiture. Bien sûr, c'est
ce que vous pensez, Guillaume.
Moi, je pense qu'on peut aller même plus loin, si vous voulez. Mais c'est pas un gros mot. Il intègre la campagne électorale dans son rôle de chef de la diplomatie européenne dans cette période-là. Et quel est le problème?
Quel rapport entre les deux?
Parce que son objectif à lui est d'en traduire un bénéfice électoral à un moment donné aussi. On peut pas lui reprocher de vouloir à la fois exercer sa responsabilité avant le Conseil européen qui a lieu le 23 juin et en même temps en tirer des bénéfices internes politiques, c'est normal, et électoraux encore mieux. On peut pas lui reprocher, c'est une campagne électorale.
Le débat devient vraiment, vraiment très intéressant parce qu'en l'occurrence, et on revient sur cette idée de distribuer des badges républicains aux uns aux autres. Finalement, qu'est-ce qui est reproché au RN ? Qu'est-ce qui est reproché à la NUPES ? C'est très simple. Le RN, évidemment, c'est de ne pas être tout à fait favorable à l'Union européenne et la NUPES, c'est de vouloir bloquer les traités. Et c'est très intéressant de démonter le vocabulaire parce qu'on peut être pro-européen et on peut considérer que oui, c'est pas une bonne solution que préconise le RN, c'est pas une bonne solution que préconise la NUPES. Mais en aucun cas, on peut mettre l'étiquette anti-républicain, parce que la République, précisément, c'est la souveraineté appartient au peuple. La souveraineté européenne, c'est une forfaiture démocratique et républicaine. À partir du moment où on veut transférer des pouvoirs à l'Union européenne, on est contre la République.
Anthony, sur le sursaut républicain, l'appel au sursaut républicain lancé par Emmanuel Macron hier depuis le tarmac d'Orly, là, avec l'avion derrière, avec les moteurs qui tournaient encore. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il a raison ou tort d'avoir lancé cet appel au sursaut républicain ? En clair, de dire il faut voter pour LREM, sinon ça va être le chaos si vous votez pour la NUPES ou le RN.
Alors pour aller très rapidement, moi je pense qu'il a raison. Moi j'ai pas voté Emmanuel Macron au premier ni au deuxième tour, mais malgré tout, je
vous
pense
avez voté
que
pour
maintenant.
Qui, tiens, vous n'êtes pas obligé de le dire. Mais vous pouvez.
Bon, je peux le dire, il n'y a pas de secret. Hein. J'ai voté Jean-Luc Mélenchon.
Au premier tour et au deuxième.
Mais pour autant, je n'adhère pas à la NUPES.
D'accord. Et au premier tour et au deuxième tour
Au deuxième tour, j'ai voté Emmanuel Macron, hein, parce qu'évidemment, face à Marine Le Pen, il n'y avait pas d'autre solution intelligente à faire. Et moi, j'ai pas voté donc Emmanuel Macron, sauf au deuxième tour. Mais par contre, je pense que maintenant qu'il est élu, il faut lui donner une majorité suffisante pour pouvoir établir les projets nécessaires pour la France et pour pouvoir être efficace pour toute la France et pour tous les Français. Ça, c'est vachement important. Moi, je suis apolitique, sinon je vote comme tout citoyen. Et ce que je pense aussi, pour aller très très vite et pour terminer, il y a 70% des 18-30 ans qui n'ont pas voté. Et ça, je trouve ça extrêmement grave.
On en a parlé hier dans Europe Midi, vous avez
raison. À 2 heures de Paris, il y a la guerre. Donc je pense que c'est dramatique de faire ce genre de choses pour les 18-30 ans. Voilà, pour aller très vite. Je vous remercie de m'avoir écouté.
C'est nous, c'est moi qui vous remercie d'avoir appelé Europe 1 et d'avoir pris la parole. Comme tous les jours, tout le monde a le droit d'appeler Europe 1, de prendre la parole. On débat et on écoute tous les avis. On est avec Guillaume Bigot, qui est politologue et éditorialiste, et Jean-Christophe Gallien, politologue, conseil en communication, et avec vous au 39-21. On va parler dans un instant... toujours de la politique, évidemment. Mais je voulais qu'on parle des tenues islamiques. Il y a une note du renseignement territorial qui indique qu'il y a une hausse des cas de port de tenues religieuses dans les établissements scolaires. A tout de suite.
Europe Midi, Romain Desarbres.
12h46, le débat, même pendant la publicité. Entre Guillaume Bigot, évidemment éditorialiste, politologue, et Jean-Christophe Gallien, conseiller en communication et politologue également. Je voulais qu'on parle des tenues islamiques. Une note du renseignement territorial indique donc qu'il y a une hausse des cas de port de tenues religieuses dans les établissements scolaires en France. Le nouveau ministre de l'Éducation, Pap Ndiaye, en a parlé. Il a dit qu'il allait surveiller le phénomène. Guillaume Bigot, le gouvernement surveille le phénomène. Est-ce que ça vous convient comme réponse ?
Ah oui, je pense que c'est tout à fait... c'est du macronisme en acte, c'est-à-dire, très paradoxalement, c'est-à-dire qu'on regarde, on observe, on peut même faire appel à des cabinets de conseil, on comptabilise, on fait des tableurs Excel, on se réunit, on parle, on fait des slogans, on fait de la communication, et puis la réalité se déroule à l'extérieur. Voilà, et il y a... Si vous voulez, les Grecs avaient une formule pour distinguer la parole politique d'une parole normale. Ils disaient, c'est ce qu'on appelle de manière un peu pompeuse, la parole performative. C'est-à-dire parler en politique, c'est parler pour transformer le réel. C'est en fait, concrètement, donner des instructions, donner des ordres, agir, si vous voulez. La parole macroneuse, et d'ailleurs c'est un terme qui a été inventé en Ukraine, macroner, c'est parler, non pas pour ne rien dire, mais pour ne rien faire. Et c'est exactement ce que dit M. Ndiaye, c'est-à-dire qu'on va observer. Ça fait vraiment furieusement penser au début, vous savez, de L'Étranger de Camus, avec le personnage de Meursault. Aujourd'hui, maman est morte. C'est-à-dire que il se passe des choses, et puis bon, on les regarde alors. On les regarde et puis on les enregistre.
Vous dites que le gouvernement n'a pas de prise sur
le réel.
Mais
peut-être vont-ils aller dans un accès de volontarisme fou à créer une commission. Peut-être.
Ce serait le maximum, selon vous.
Ça serait le sommet du volontarisme.
Jean-Christophe Gallien.
On est face à quelque chose de très, très, très sérieux, très dangereux.
Tout est parti d'un article de
L'Opinion. Mais c'est dangereux et c'est pas dangereux depuis hier. C'est depuis avant-hier, si vous voulez. C'est du gain de terrain. Mais ça, tant que personne ne l'a compris, si vous voulez,
et tout le monde réagit. L'a compris.
Oui, mais je parle de nos gouvernants.
Face à un gain de terrain.
C'est un travail au millimètre. On est tout le temps en train de chercher un petit avantage, gagner. Alors, un coup, c'est une tenue, un coup, c'est un élève, puis un troisième, puis un quatrième, puis après c'est l'accompagnatrice, puis après... Bon. Et on est sur tous les espaces possibles, dans le sport, dans la culture, à l'hôpital, dans l'éducation évidemment, partout où on peut aller sur le terrain du régalien en particulier, porter ses points de faveur, ses points d'avantage. C'est-à-dire, en l'occurrence, ses points d'avantage de ces mouvements, c'est de prendre possession d'un certain nombre d'espaces à partir de...
Pour être très clair, vous parlez de mouvements islamistes,
qui cherchent
à gagner du terrain.
Et qui sont d'ailleurs très organisés, coordonnés pour une bonne partie d'entre eux depuis l'étranger, avec des objectifs qui ne sont pas simplement politiques en France, mais plus largement ailleurs, mais qui ont choisi la France en particulier, comme tête de pont, notamment sur l'espace européen, pour revenir à un sujet qui nous passionne tous les deux, avec des anglages un peu différents. Mais la réalité concrète, c'est qu'il faut faire face à ça de manière très dure, et pas simplement l'observer, ni encore moins créer une commission, en effet. Ça fait trop de temps. Et ce trop de temps, si vous voulez, il est terrible, parce que quand vous rentrez dans l'espace, par exemple, de l'éducation et chez les jeunes enfants, et en particulier chez les jeunes en général, vous créez la capacité de croire, de faire croire, d'ailleurs, que c'est tout à fait normal, puisque... Qu'est-ce que vous allez dire à un enfant qui est dans une classe ? C'est difficile pour l'enseignante ou l'enseignant, qui, la plupart du temps d'ailleurs, est très 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 isolé dans sa responsabilité face à cet effet. Comme à l'hôpital, on est très isolé quand on vous demande d'être soigné que par une femme. Vous voyez ce que je veux dire? Comme lorsqu'on est...
Et donc, si dans le discours du ministre,
on est dans une verticalité qui ne soutient jamais. Ouais. On est comme dans un système, si vous voulez, qui laisse ces personnes, quand elles sont volontairement opposées, et ce n'est pas toujours le cas, notamment d'Éducation nationale, mais lorsqu'elles le sont, seules, isolées face à cela. Et face à cela, ça veut dire quoi? Les parents, les communautés. Ouais. Et c'est très important.
Ce qu'il dit est très important. Je le traduis de manière un peu plus cash. C'est-à-dire qu'en fait, il faut dire que l'Éducation nationale et leur comité laïcité, leur comité Théodule, etc., avec 3 psychologues, 4 sociologues, bon, qu'est-ce qui se passe? On va étudier la situation. Ça a soutenu M. Paty comme la corde pendue. Hein. Ça, il faut le dire.
Voilà. Alors, j'ai la naïveté et l'espoir de croire qu'il y a un avant et un après.
Oui,
qu'il y a un avant
absolument.
Qui était catastrophique.
Vous avez raison,
effectivement,
il faut
on
être...
laissait les professeurs seuls et on les aidait pas.
On les culpabilisait.
Et on les culpabilisait. Et la proviseure, loin de moi l'idée de la blâmer, mais avait reçu un père de famille et un militant islamiste.
Bien sûr.
Donc,
honte à cette proviseure. Honte à l'Éducation nationale telle que ça fonctionnait
avant
le drame d'Emmanuel Paty.
Espérons que depuis, les choses ont changé.
Espérons-le
pour les professeurs, pour équilibrer un peu,
je pense que la loi sur le séparatisme a été une bonne chose. Et qu'effectivement, il y a là, pour une fois, des mesures qui ont été prises, notamment permettant aux préfets de prendre la main sur les maires, sur les élus locaux, etc., et de contrôler davantage les associations. Il y a des petites... Le terrain a un petit peu avancé. Mais grosso modo, dans les écoles, c'est la capitulation
campagne. Je suis beaucoup plus pessimiste, et ça c'est étrange sur Sterling Guillaume, c'est-à-dire que pour le coup... Je le vois se développer de manière croissante, si vous voulez, avec des complicités. Des complicités qui sont à la fois des complicités dans l'espace public, encore une fois, parfois de certains politiques, parfois de certains fonctionnaires, mais aussi dans l'espace privé, puisqu'il y a, il y a autour des marques qui aujourd'hui s'en emparent sur le terrain marketing, c'est-à-dire qui le traduisent de manière mainstream, pour dire en gros grand public, et font croire à une génération que c'est tout à fait normal, si vous voulez, d'aller faire du sport complètement fermé, d'aller à l'école comme ça, et ainsi de suite. Et c'est un marché. Donc ce marché récupéré, il faut aujourd'hui coordonner une résistance.
On ne les cite pas, mais des grandes marques qui font l'eau minérale, qui s'excusent, des grandes marques qui fabriquent des baskets, etc. On aurait tout à fait eu leur place dans le gouvernement de M. Laval, c'est sûr.
Allez, on va parler de la vague de chaleur. Fabrice nous appelle, vous êtes ingénieur process méthode en recherche d'emploi. Bonjour Fabrice.
Oui, bonjour.
Merci d'être en direct avec nous, vous nous appelez de Seine-et-Marne. Je voulais qu'on parle aussi de la chaleur, il nous reste quelques instants. Je posais cette question là à 10h et à 11h chez Philippe Vandel et chez Mélanie Gomez et Julia Vignali. Quand je parle de l'émission, là, que je donne les thèmes comme ça, la vague de chaleur, est-ce qu'elle vous inquiète? Et je voulais vous entendre sur ce thème. C'est vrai qu'on vit une vague de chaleur, 37 degrés à Toulouse. Vous êtes inquiet ou pas?
Eh bien, écoutez, oui, moi, ça m'inquiète, mais surtout, le fait qu'il y ait beaucoup de solutions proposées qui sont probablement à côté de la plaque.
Ah, dites-nous.
C'est-à-dire, alors, concrètement, je suppose que vous avez déjà entendu parler de la fameuse maxime qui planifie mal, planifie son échec.
Alors, écoutez, très honnêtement, je l'entends pour la première fois, mais je vais la garder. Qui planifie mal, planifie son échec. Très bien.
Voilà. Concrètement, on a tout un tas de personnes qui se présentent, que ce soit législatives ou même dans d'autres endroits, qui ont pour moi une vision dogmatique des choses, qui n'ont pas une vision technique, voire scientifique, pragmatique des choses, et que ça a tendance à hystériser le débat. Voilà. Mmh. On a vu ce qui s'est passé récemment, par exemple, au Parlement européen, donc avec un certain nombre de personnes qui se sont...
On va être très concret, parce qu'on est un peu pris par le temps, il est 12h54. Ce que vous nous dites, par exemple, un exemple très concret, le nucléaire. Qu'est-ce que vous en dites du nucléaire?
Mais écoutez, pour moi, le nucléaire, c'est tout à fait complémentaire des ENR. C'est l'énergie qui, on va dire, la plus fiable actuellement, la plus dense énergétiquement, et qui permet vraiment de pouvoir fournir beaucoup de puissance pour très peu de surface. Les ENR en tant que telles sont utiles, mais à un moment donné, faut regarder vraiment comment on planifie ça et avec les différents enjeux et contraintes. Donc la population locale, avec les ressources minières, il y a beaucoup de choses à regarder. Donc ça se fait pas en 2 secondes. Et excusez-moi, mais d'avoir tout le temps dans les médias et même à l'école ou autre, on a constamment des informations qui sont données mais qui sont pour la plupart du temps dogmatiques et malheureusement on n'écoute pas assez les personnes qui savent, genre des ingénieurs, des techniciens ou autres.
Donc il faut donner la parole aux ingénieurs comme vous, merci beaucoup Fabrice, et plus aux politiques pour parler réchauffement et pour parler énergie. Voilà, c'est le message de Fabrice. Il y a toutes les opinions qui passent. Merci beaucoup Fabrice de nous avoir appelé de Seine-et-Marne. Vous avez entendu la petite musique, c'est la musique de fin. 12h55, on se retrouve demain pour un nouvel Europe Midi. Merci beaucoup Guillaume Bigot.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup Jean-Christophe Gallien d'être venu dans Europe Midi aujourd'hui. C'est Elisabeth Assayag qui s'installe. Bonjour Elisabeth.
Bonjour Romain Desarbres.
Pour la France Bouge.
Pour la France Bouge, et nous on vous retrouve demain à midi pour Europe Midi.
À demain.